Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de radio MDM Electric Troubles Radio Show en ce mercredi. Une nouvelle interview, celle de Versari, voilà, groupe qui tourne depuis déjà pas mal de temps, mais qui n'a pas tant de production que ça. Voilà, ils prennent le temps entre chaque disque. Moi, je les avais connus, je crois que c'était en 2007. Voilà, il y a eu un album aussi en 2013. Maintenant, nous sommes en 2020. Voilà. Donc sûrement des gens en parallèle très occupés. Nous aurons Jean-Charles tout à l'heure au téléphone, tout simplement pour parler d'un superbe disque qui est sorti tout récemment, me semble-t-il. C'était en avril, voilà. Donc écoutez, on va se passer un premier morceau dans Electric Troubles. Il ne s'agit pas de Versari, mais il s'agit de PJ Harvey. Je vous rappelle que la semaine suivante, nous aurons François 1er le grand François 1er, celui qui a créé tant de choses il y a très très longtemps. François 1er, le groupe là-bas, du côté de la Normandie, bien sûr, vous le savez, avec Frandol à l'intérieur, avec aussi Mister Lebas, comme je disais la semaine dernière, d'Asphalt Touaregs, et puis de Fixed Up. Voilà, et la semaine suivante, ce sera Intenable, les punk rockers de chez Guerilla Assault et toute la grande famille. Voilà, avant de se retrouver, Jean-Charles de Versari, PJ Harvey.
I'm not afraid to die.
Voilà donc un premier morceau dans Electric Troubles. À l'instant, il s'agissait de PJ Harvey. Le titre du morceau, c'était Big. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas entendu PJ Harvey. Et je l'ai écouté dans la voiture juste avant de venir. Et je me dis que c'était quand même vachement bien. Alors, nous sommes avec Jean-Charles du groupe Versari au téléphone. Donc, un grand merci à toi d'être avec nous. Ah, il y a un enfant derrière.
Oui, je suis désolé, il y a un enfant.
Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien, c'est familial, c'est cool.
C'est ça.
Alors, je voudrais, s'il te plaît, avant qu'on aborde le disque et avant qu'on aborde un petit peu qui tu es, que tu me présentes tes deux acolytes là, dans le groupe, puisque vous êtes toujours trois, normalement.
Oui, on est le groupe Versari est en effet depuis un bon moment maintenant composé de trois personnes. Donc avec moi joue Laureline Prodhomme qui joue de la basse et qui fait des chœurs et Cyril Bibot qui fait la batterie.
D'accord.
Donc voilà, Laureline qui faisait partie de Candy Prune avant, qui a joué avec Jan Sand et Cyril qui faisait partie de Sloy et qui joue. Bon après ils ont eu d'autres projets en commun puisqu'ils ont joué tous les deux avec Théo Acola. Et Cyril joue avec Zone Libre, là, aujourd'hui, c'est son autre projet principal.
D'accord. Et Théo Acola, il y a un disque aussi, en ce moment,
me semble. En ce moment, il y a un album qui vient de sortir, ouais. En effet, sur lequel Laureline a joué, ouais. Ouais, je ne crois pas que Cyril joue sur celui-ci, mais sur lequel Laureline a joué là-bas.
Ouais, ouais. Ça fait partie des disques que j'ai à chroniquer pour le fanzine. C'est vrai que bon, Versari, ça fait quand même un moment que ça existe, donc il y a eu trois disques. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, si vous aviez quand même donc tous eu une vie musicale avant, est-ce que tu peux me dire quel était le désir au départ, la volonté, voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce groupe? Et d'ailleurs, est-ce que ça a été un groupe d'emblée ou est-ce que c'est toi qui as eu le projet au départ, l'idée? Voilà, comment ça s'est goupillé?
Alors c'est vrai qu'on a fait on a sorti trois albums. Le premier album, c'est un peu un album charnière, c'est un album en tout cas comment dire, moi je venais de finir de quitter les Hurleurs et j'ai contacté Cyril pour jouer avec moi. À l'époque, Laureline joue pas avec nous, elle est arrivée dans Versari pour la tournée de ce premier album, mais au début du travail, on bossait, c'était Cyril, moi, et un violoncelliste américain qui s'appelle Jason Glasser, qui habite en France, qui est également artiste plasticien et qui fait surtout ça maintenant. Mais le premier album, c'est un album dont on a eu besoin, je pense, avec Cyril pour commencer à faire de la musique ensemble, mais c'est vrai que c'est pas un album qu'on joue sur scène en fait, c'est pas qu'on l'assume pas, on en était très content quand il est sorti, mais c'était pas qui on est aujourd'hui en tout cas.
D'accord.
C'est vraiment quand Laureline a rejoint le groupe et qu'on a fini d'exploiter un peu cet album, enfin d'exploiter, de jouer cet album-là en concert, qu'on a commencé à bosser sur la suite, et puis par la force des choses avec les histoires de personnel, Jason avait quitté le groupe, il y a un autre gars qui est venu le remplacer, mais qui, bon, on a eu assez peu de dates, donc il était pris par d'autres choses, donc on n'a pas beaucoup bossé avec lui, et du coup c'est vraiment au moment où on a commencé à travailler, Laureline, Cyril et moi, sur les nouveaux morceaux, après ce premier album, qu'on a vraiment commencé à trouver, qui on était réellement et enfin ce qu'on voulait faire exactement, plus précisément en tout cas, tous les trois.
D'accord. En dehors de cette étape importante, là donc de l'arrivée d'un nouveau membre qui aurait donc posé les choses, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes importantes dans la vie de Versari, voilà, des choses qui vous ont un peu façonné le son, est-ce que c'était des rencontres, je sais pas.
Évidemment. Quand on a eu des morceaux prêts pour ce deuxième album, j'ai proposé à Adrian Huttley, donc le guitariste de Portishead, que moi j'avais rencontré dans le cadre du dernier album des Hurleurs, et puis on était devenus amis. J'ai proposé à Adrian je lui ai demandé surtout si ça l'intéresserait de réaliser, produire le deuxième album, il a dit oui, et je pense qu'en effet, même si on savait les morceaux, ils étaient ce qu'ils étaient quand on est rentré en studio, sans Adrian nous a vraiment poussé dans une direction, il a vraiment il nous a aidé à trouver notre son par rapport par rapport à Sam Lang, en tout cas par rapport à Ostinato. Le process a été très différent sur Sous la Peau puisqu'on a travaillé sur du plus long terme, et c'est là c'est vraiment nous et moi qui ai beaucoup travaillé sur le son de l'album. Mais...
D'accord. Il intervient à un moment donné sur un morceau.
Ouais, en fait, il est comme moi je voulais refaire appel à lui, mais comme on a travaillé sur une très très longue période, cet album-là, qu'on l'a enregistré en plusieurs sessions, c'était compliqué de l'investir comme on l'avait investi sur Ostinato. Donc au moment du mix, je lui ai proposé de entre guillemets de produire le mix, et puis éventuellement de rajouter des éléments s'il avait envie, mais pour des problèmes pour la production du mix, des problèmes de disponibilité, hein, puisqu'il était pas, il avait du boulot à ce moment-là, donc il n'était pas super dispo. Et puis moi il se trouve que j'avais déjà beaucoup chargé les morceaux en guitare et en synthé, donc c'est vrai que ça laissait pas énormément de place pour faire des choses, mais il a ajouté une guitare sur Tu te disais, et c'est, enfin, moi je trouve ça remarquable ce qu'il a ajouté, c'est très subtil mais c'est vraiment très très bien, et il a ajouté un synthé sur La Peur au Ventre.
D'accord. Et vous avez, tu as bossé avec, il y a quelqu'un d'autre aussi, Vincent, c'est ça, le couplier
qui est... Non, il y a, non. C'est un, j'ai en fait un gars qui s'appelle Jonathan D. Mayer, qui est un compositeur américain qui est un ami, qui est même presque, enfin qui est de ma famille, c'est de ma famille adoptive américaine, on va dire. Lui, en fait, il se trouve que j'étais chez lui et qu'il a un studio de synthétiseur, en fait, en quelque sorte, puisque lui, c'est un de ses outils préférés, donc on a bossé tous les deux sur les textures de synthé, donc lui a ajouté des synthés, moi j'ai ajouté des synthés aussi.
D'accord. Chez lui. Donc, toi, tu es en parallèle ingénieur du son, c'est ça ?
Moi, je suis ingénieur du son, ouais, c'est ce que je fais pour gagner ma vie.
D'accord. Ok, bon, on va se passer un premier morceau.
D'accord.
Si je retrouve l'ouverture de mon écran, ça ira. Des images, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui-là de particulier ?
Qu'est-ce que je pourrais dire de particulier sur ce titre ? C'est un titre qui est... C'est pas dans les plus récents qu'on a fini pour cet album. Mais ce qui était pour moi intéressant, c'est que jusqu'à la fin, pour moi, il manquait quelque chose, en fait. Il y avait un petit... il fallait que j'ajoute quelque chose. Et la ligne de guitare qui arrivait à la fin, je l'ai vraiment enregistrée juste avant d'envoyer les pistes, les fichiers pour le mix. Et c'était assez intéressant parce que le team qui a donc mixé l'album a vraiment mis en avant cette ligne de guitare. Et du coup, je trouve que ça... Pour le coup, c'est vraiment un choix qui était ambitieux. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un choix radical, mais c'est très très bien. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a encore porté le morceau beaucoup plus loin qu'il n'était même avant ça.
D'accord. Eh bien, écoute, on va se passer ce morceau, des images, tout de suite. Donc, extrait de Sous la Peau de Versari. C'est parti.
Et le mien, je sais où je suis, je sais où je suis bien.
Voilà donc un premier morceau de Versailles, des images à l'instant. J'ai vu donc les dates 2007 jour après jour, l'album suivant 2013. Et là, il s'est donc passé 7 ans entre les deux derniers. Est-ce que c'est lié à un besoin de prendre son temps, la maturation d'un projet, etc., la maturation des disques, ou est-ce que c'est lié à cette période à tous vos travaux annexes, vos emplois annexes?
C'est un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire que de toute façon, je pense qu'en effet, les albums et Ostinato et Sous la peau ne seraient pas ce qu'ils sont si on n'avait pas pris le temps qu'on avait pris. Après, nous, on n'a pas du tout l'intention d'attendre 7 ans avant de sortir le prochain, là, c'est sûr. Mais il faut qu'on... C'est vrai que malgré tout, on est quand même seul. Donc on bosse un peu, on bosse évidemment avec des gens autour de nous, mais c'est nous le label, c'est nous les producteurs, hein, donc voilà. Et puis c'est vrai que par ailleurs, de toute façon, on a tous une vie à côté, hein, donc la musique ne nous rapporte pas assez pour nous permettre de vivre. Donc c'est vrai que du coup ça ralentit pas mal des choses en termes de création. Et puis le fait qu'on n'habite pas dans la même ville non plus, puisque Laureline habite à Rennes et Cyril à Angers, et qu'on ne travaille que tous ensemble, c'est-à-dire qu'on écrit nos morceaux de manière tout à fait collective. La base des morceaux vient d'un travail qu'on fait tous les trois. On joue ensemble, on cherche des choses ensemble, et une fois qu'on a trouvé des choses qui sont intéressantes, on les enregistre. Et puis moi, après, je retravaille dessus, je commence à écrire, je découpe, je crée des structures avec ce qu'on fait. Éventuellement, j'essaie des modulations. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça ne nous permettait pas de... Enfin, c'est un processus, en tout cas, qui prend du temps.
D'accord.
On arrive rarement à se voir plus d'une fois par mois, et ça c'est ce qu'on fait quand on est dans les meilleurs, quand c'est le plus simple, enfin quand ça fonctionne le mieux, quoi. Il y a eu des périodes où on s'est pas vu pendant 3 mois pour des raisons X, hein, pour parce qu'il y a des vacances, parce que Cyril est en tournée, parce que moi j'ai du boulot, voilà.
D'accord.
Par contre, ce qui est certain, c'est que le fait de prendre le temps permet aussi d'aller au bout du bout d'un album. Après, c'est vrai que cet album-là, par exemple, sous la peau, à un moment, j'ai dit, il faut qu'on le finisse, parce qu'on avait tendance à... pas à traîner, mais... En plus, la possibilité, comme j'ai un studio, Vincent, le couplier, chez qui on a enregistré des Basics, un studio aussi, ça permet toujours de revenir en arrière. On se dit, on peut peut-être faire quelque chose de plus. Et en fait, à un moment, il fallait qu'on finisse, quoi. Donc j'ai un peu mis le coup d'accélérateur vers la fin pour qu'on finisse l'album quand il a été fini.
Oui, parce qu'effectivement, je sais pas moi, j'imagine qu'en 7 ans, ce qu'on est personnellement, les goûts, ça peut éventuellement changer. On risque se fixer sur quelque chose, ça peut devenir compliqué, même si vous avez tous une carrière bien remplie, donc certainement des idées bien précises sur les choses, mais bon, on est en perpétuelle évolution, donc pour se fixer... compliqué.
C'est un risque. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose dont on a vraiment pâti, parce que je pense pas qu'on ait nos goûts, nos désirs, en tout cas pour cet album, aient évolué pendant cette année pour le faire. Et puis on l'a pas fait sur 7 ans, l'album, hein, on l'a composé sur cette période de temps, mais on l'a pas évidemment enregistré sur 7 ans du tout. On a commencé à l'enregistrer quand on savait ce qu'on voulait, et ça c'est avant, enfin c'est dans l'année qui a précédé sa sortie, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être un risque.
Et qu'est-ce que vous vouliez justement de différent sur celui-là?
Je pense qu'on a voulu affirmer qui on était, plus encore Ostinato, c'était un peu pour nous, enfin Laureline et Cyril et moi, on considère vraiment qu'Ostinato c'est plus notre premier album que réellement jour après jour. À un moment, j'avais envisagé de changer de nom de groupe, peut-être qu'on aurait dû faire ça, bon, c'était pas très important, mais on considère vraiment Ostinato comme étant notre premier album. Sous la peau... Moi, en tout cas, enfin, je crois tous les trois, on avait une volonté de quelque chose de peut-être un peu plus plus dur, j'ai envie de dire, d'un peu plus radical encore que Ostinato. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais pas écouté Ostinato depuis assez longtemps, en fait. Et quand l'album est sorti, je me suis dit, tiens, bah, je vais réécouter Ostinato. Et en fait, je trouve que c'est flagrant, la différence entre les deux albums. Et je trouve qu'on a réussi à aller où on voulait aller, en fait. C'est-à-dire, en effet, d'en faire un album un peu plus radical, un peu plus tranchant. C'est pas un album... c'est pas un album serein, c'est un album agité d'une certaine manière et voilà.
Émotionnellement, tu veux dire?
Ouais, émotionnellement, au niveau du son, au niveau de la puissance. Et c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs de dire ça aujourd'hui parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on s'est dit en fait. On s'est pas dit ah ouais, on aimerait bien que le prochain soit comme ça en fait. On a travaillé nos morceaux et moi ce que je ressens c'est que dans les titres qu'on a gardés finalement et qu'on a fini par transformer en chansons ou en tout cas en titres sur l'album, il y a cette intranquillité pour Situ Pessoa dans les titres quoi, dans les morceaux.
D'accord. Est-ce qu'en termes de paroles, ça a été, comment dire, selon toi, une évolution aussi, des choses différentes que tu as voulu aborder? Ton travail d'écriture a-t-il changé, quoi, grosso modo?
Ouais, bah mon travail d'écriture, il évolue. Moi, je me rends compte que de toute façon, plus ça va et plus je suis exigeant. C'est-à-dire que là, pour le coup, autant entre guillemets, c'est facile. Quand on bosse avec Lorline et Cyril et qu'on joue, qu'on fait de la musique, les choses viennent très naturellement, tout le monde a des idées, ça rebondit, c'est assez vivant. Par contre, c'est vrai que moi, mon travail d'écriture, plus ça va et plus c'est pas dire douloureux, mais en tout cas je suis très très exigeant et du coup je vais très très lentement et je pense que plus j'avance dans mon écriture et plus j'affine la manière dont j'écris et j'essaie d'aller vers quelque chose qui est presque plus minimal que ça n'a été par le passé. Si on retourne au tout début des Hurleurs, mon écriture était vraiment foisonnante. C'était l'écriture d'un jeune adulte qui découvrait un peu ce qu'on pouvait faire en écrivant. Je suis très très loin de ça aujourd'hui. Chaque mot est pesé, chaque formule est pesée, à ce titre, ouais, mon écriture, elle a changé dans le sens où elle évolue, elle avance dans un sens. Après, au niveau des thèmes, moi j'écris sur ce qui me tient à cœur, et c'est vrai que et sur ce qui me touche, sur mes émotions. Et cet album est vraiment un album sur la fin, sur la fin de tout un tas, ça peut être la fin de tout un tas de choses, la perte, quoi. La perte de la capacité d'écrire. Il y a un morceau qu'on avait fait, composé, écrit à l'époque d'Ostinato, et on n'était pas super satisfait de la version, c'est Nemesis qui est donc à l'avant-dernier titre de l'album, quoi. Ça, c'est vraiment un titre sur la feuille blanche, sur la peur de la feuille blanche. D'accord. La peur de la feuille blanche qui revient comme une espèce de... comme une némésis, quoi.
D'accord. Et si justement ces textes deviennent plus personnels, selon toi, est-ce qu'ils sont plus profonds? Est-ce qu'ils sont plus facilement abordables par l'auditeur ou plus difficilement?
Bon, alors, je dirais pas que c'est plus personnel et plus profond qu'avant, en fait. J'ai toujours... ça, c'est mon processus, c'est comme ça que j'écris. J'écris sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur ce que j'ai vécu. Et c'est toujours assez profond. C'est-à-dire que même à l'époque des Hurleurs, les gens venaient déjà me dire oh, ouais, les textes, c'est pas drôle.
Oui, c'est vrai.
Je pense pas que... En tout cas, moi, j'espère, et j'ai l'impression, que les gens... peuvent quand même s'approprier ces textes sans problème, en fait. D'accord. J'ai jamais eu personne qui... Enfin, les gens qui viennent me parler de mes textes m'en parlent parce qu'ils réussissent à les faire leur et les textes leur parlent à leur intimité, en fait, et à leurs émotions. Et ça, c'est la magie des textes, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait de côté non universel à mes textes.
D'accord.
Fait.
Ok. Dis-moi, en quoi éventuellement le visuel du disque, ce magnifique visuel, pourrait-il, ouais, selon toi, avoir un lien avec le contenu ou la forme de la musique?
Alors, on ne s'est pas posé la question comme ça, évidemment. Mais après, on trouvait ça fantastique parce qu'en plus, il y avait un rappel, tu sais, il y a déjà un crâne sur Ostinato. Donc, c'était quelque part un rappel. Bon, là, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose, on n'a pas analysé le truc en se disant, ah ouais, ça c'est super parce que ceci, parce que cela. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que donc c'est une peinture de James Johnson de Gavin Drunk. Le titre de la peinture, c'est Master Performer Portraying Death. C'est grand dramaturge jouant le rôle de la mort, en fait. Et en fait, quelque part, il y a, là en l'occurrence, c'est un dramaturge qui joue le rôle de la mort. Je dirais pas qu'on incarne des personnages dans ce disque du tout, puisque pour le coup, les textes, c'est pas une pièce de théâtre, mais il y a une émotion qui est présente dans l'interprétation, qui pourrait éventuellement se rapprocher de la dramaturgie.
D'accord.
Et du jeu, quoi.
Ok. On va se passer un deuxième morceau. Alors, celui que j'ai choisi, c'est Brûle. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose... merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui-là?
Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Brûle? Avec le recul, pour moi, c'est le titre le plus fort de l'album.
D'accord.
Il y a plein de choses magiques pour moi dans ce titre. Et c'est intéressant comme... Bon, voilà.
Et qu'est-ce qu'il y a de magique? Qu'est-ce qu'il y a de magique selon toi?
Ce qui s'est passé, c'est quand les cœurs de Laureline, quand Laureline est venue poser ses cœurs vraiment à la toute fin de l'enregistrement, ça a été un moment, enfin, on n'avait pas calculé, elle avait pensé à des choses, mais quand elle a enregistré les cœurs, pour moi, ça a amené le refrain vraiment ailleurs. Brûle, ça a été un morceau, ça a été un des morceaux sur lesquels j'ai réussi à écrire une partie du texte pendant qu'on était en train de travailler l'instrumental. Donc, quand on était en session de travail, j'avais, moi, de mon côté, je prenais 5 minutes, j'allais m'asseoir, j'écrivais un truc, comme je revenais, je le chantais, j'ai réussi à poser ma voix.
D'accord.
Donc, c'est aussi un morceau intéressant pour moi pour ça, parce que c'est quelque chose qui est assez dur pour moi à faire. Ça, c'était intéressant. Et puis le côté très lyrique, quoi, il a quelque chose de très lyrique, quoi, qui est touchant et qui va... il a un espèce de flottement, il a un truc un peu particulier à lui, quoi.
D'accord. Eh bien, on va se l'écouter et nous nous retrouverons juste après. C'est parti. Voilà, c'était donc un deuxième morceau de Versari, Brûle à l'instant. Le dernier qu'on écoutera tout à l'heure en se quittant, ce sera La peur au ventre. Dis-moi, j'aimerais bien savoir comment vous, là, dans le groupe, même si vous n'êtes pas au même endroit, vous avez vécu un peu cette période peut-être un petit peu compliquée, voilà, et certainement source de remise en question ou de réorganisation, là, donc la période dite du confinement et de tout ce qui s'en est suivi.
Ça a été très dur, hein. Ça a été très dur aussi quand même pour commencer parce qu'on devait partir en tournée aux États-Unis. Ah oui. et que du coup tout a été annulé et que pour ça va se faire, hein, mais pour tout recaler, là pour le moment eux ils sont aux États-Unis, c'est encore c'est pire que jamais parce que les États-Unis c'est les États-Unis et que ils ont le président qu'ils ont malheureusement et une partie des gens qu'ils ont aussi, hein, il y a quand même un sacré ramassis de crétins, hein, mais avec tout l'amour que j'ai pour ce pays, hein, où j'ai de la famille, et donc moi j'y suis très attaché. Mais... Donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce que d'un seul coup, on était dans une dynamique, voilà, l'album sortait, on avait un concert de sortie à Paris, on partait aux États-Unis le lendemain, on avait 2 semaines de tournée, on devait finir à New York, enfin c'était quand même vraiment intéressant. Et puis, tout s'est arrêté d'un coup. On l'a mal vécu au niveau artistique parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on nous avait fauché l'herbe sous les pieds. Quoi. Et puis après, ça a été dur de ne pas pouvoir répéter, de pas pouvoir se voir. Donc on a fait quelques conférences, quelques visioconférences comme tout le monde, où on faisait un peu le point. Bon, moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur l'album pendant le confinement, donc ce côté un peu anti-artistique. Même si c'était pas de l'artistique que je faisais quand je travaillais pendant le confinement, j'ai quand même vraiment contribué à ce que l'album soit visible. J'ai beaucoup bossé sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup communiqué avec nos partenaires. En fait, on a la chance d'avoir un label, le label qui a sorti l'album en numérique qui est à New York. Donc ça, c'était, il y avait beaucoup de travail aussi sur les États-Unis. On a mis en place la promo aux États-Unis. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Après ça a été globalement, ça a quand même été très très frustrant ce confinement. Humainement, artistiquement, ça a été frustrant. Même si on n'habite pas dans la même ville, le fait de ne pas pouvoir se voir, enfin le fait de ne pas se déplacer ou le fait de ne pas avoir le droit de se déplacer, c'est deux choses très différentes. Et du coup, il y avait un côté un peu on était un peu ceinturé, quoi. C'était un peu le voilà. Bon après. On est sorti du confinement, on a tourné un autre clip depuis et on a fait un gros week-end de répétition et puis c'était un peu nos retrouvailles, quoi. C'était bien. Mais c'est un moment particulier quand même, hein. C'est très particulier.
Et le fait de pas savoir la suite, parce que de toute façon c'est ça, on est quand même dans l'expectative, surtout, c'est j'imagine que ça doit quand même un peu hanter. Ouais. On sait pas trop.
Là on sait pas du tout où on va. Nous on a booké une date à Paris. Bon alors là évidemment il faut qu'on prenne un peu tout notre booking, mais les salles pour le moment ne s'engagent pas. Moi par exemple j'essaie de remonter la tournée aux États-Unis, aucune salle aux États-Unis ne dit on va rejouer à telle date ou à telle date.
Oui, ça risque d'être encore plus long pour eux, quoi, là-bas.
C'est n'importe quoi là-bas. C'est vraiment n'importe quoi, donc ça reste vraiment plus long et puis ça reste compliqué. Et même si les salles réouvrent, il va y avoir probablement des lois de quarantaine à respecter, des choses comme ça qui possiblement ne vont pas permettre de partir tout de suite, de toute façon.
Oui, c'est sûr.
Donc ça, c'est un peu... C'est vrai que ça rentre un peu parce que malgré tout, parce que là, aujourd'hui, l'album, il est sorti, on a la promo qu'on a, ça marche bien, mais les gens me disent, quand est-ce que ce serait chouette qu'on puisse vous voir, pour le moment, on est totalement dans l'expectative, on ne sait pas ce qui se passe.
D'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, tout le monde le vit un peu différemment. En fonction du groupe, j'entends... il y en a qui font avec, il y en a qui que chez les Lanes c'était pas trop gênant parce qu'en fait ils ont repoussé les tournées pour eux et puis même ils tiennent pas forcément toujours à tourner, tu vois, donc il y a que le fiston de Pierre-Yves qui lui a au taquet en vie, ouais. The Eternal News c'était aussi encore un peu différent, voilà, chacun le vit à sa manière. Après c'est vrai que vous il est sorti en avril, hein, c'est ça Donc il est sorti pendant.
Ouais. Nous, il est sorti pendant. Chose, ouais. Moi, ouais. On s'est vraiment posé la question de garder ça, mais notre gars qui, le Jean-Philippe Béraud, qui s'occupe de la promo, ouais. a dit non, mais restons là-dessus parce que j'ai fait tous les envois, soyons cohérents. Et en fait, quelque part, c'était pas plus mal parce que finalement, on est arrivé à un moment où en fait, il n'y avait pas tant de choses qui se passaient. Donc, et puis, on avait la chance d'avoir pu faire, d'avoir tourné le clip pour des images avant. Donc, du coup, on avait aussi ce médium-là, quoi, qu'on pouvait défendre et avec lequel on pouvait parler de nous, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été pas mal. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier, ouais, de sortir le disque pendant le confinement. Bon, après, voilà, il y a les masses médias, hein, Libération, Télérama, Le Monde. Du coup, maintenant, c'est un peu tard. Ils sont partis sur... Puis c'est compliqué, quoi. Donc, bon, c'est des choses qui, possiblement, on n'aura pas. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
D'accord. Dis-moi, est-ce que dans les morceaux que vous avez faits, il y en a qui ont été plus compliqués à mettre en place, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, il y en avait un avec l'arrivée des chœurs, ça avait, hop, des choses qui s'étaient simplifiées. Le truc était parti là rapidement. Est-ce qu'il y a eu des morceaux plus durs à mettre en place?
En fait, tant qu'on ne parle que de musique, ça se met en place très très simplement et ça fonctionne très rapidement parce que ça marche bien quand on est tous les trois et tout ça. Moi je mets pas mal de temps en fait à concrétiser, on va dire, les morceaux et à finir mes textes et à du coup arriver à la structure finale. Il y en a pas un qui a été plus long à mettre en place que d'autres. Je dirais que ce qui a été le plus particulier en fait c'est le dernier titre de l'album, Plus de tristesse, puisqu'en fait Plus de tristesse on l'a jamais joué. C'est un morceau qu'on a le dernier jour de studio, j'ai dit bah voilà, aujourd'hui on va enregistrer ça, moi j'ai le texte, j'ai la structure, voilà comment on le fait. Donc on l'a un peu répété en studio pendant l'enregistrement et puis après on l'a enregistré et ça a été c'était pas ce qui avait de plus facile parce que en fait on l'avait jamais vraiment joué dans sa forme finale tous ensemble, quoi. Donc voilà, mais au final c'est un morceau dont on est très content et qui est très bien, mais ça a été le plus dur à mettre en place, mais juste parce qu'en fait on l'avait jamais joué, quoi. C'est vraiment ça le truc, on n'avait jamais joué ensemble en dehors de l'instrumental et des idées de base qu'on avait fait à moitié en improvisation, quoi. Jouer tel quel on l'avait jamais fait, donc ça a été un peu dur à enregistrer, j'ai envie de dire. Mais après le temps de création pour tous les morceaux, c'est un peu la même chose.
D'accord. On va terminer sur une dernière, avant-dernière petite question. Jean-Charles, chaque amateur de musique, musicien ou pas, a souvent sa période préférée, voilà, la période auquel il se réfère le plus régulièrement peut-être. Je sais pas, des fois les années 80, des fois les années 90, un certain type de scène. Toi, qu'est-ce que ce serait pour toi? Et éventuellement pour tes deux collègues, si tu le sais.
En fait, Laureline et Cyril, je crois qu'ils sont... Laureline et Cyril, ils sont plus 90 que moi. Moi, je suis plus 80 qu'eux. Mais en effet, moi, je suis vraiment un enfant du... Enfin, comme Cyril, hein. Laureline peut-être un tout petit peu moins, mais je suis vraiment un enfant de la New Wave et du post-punk, quoi. Donc, c'est vraiment... moi, c'est vraiment ma période de référence. C'est des choses que j'écoute toujours autant. Occasionnellement je passe des disques, je suis donc DJ dans des soirées goth où je ne passe que du post-punk, enfin. D'accord. Voilà, c'est un peu ma culture. Laureline et Cyril aussi, surtout Cyril, mais eux c'est eux qui ont plus amené le truc 90. Moi, en effet, j'étais plus proche de groupes comme j'étais moins dans tout ce qui s'est passé à Chicago, par exemple. Je connaissais Girls Against Boys, c'est Cyril qui me les a fait découvrir. Moi, j'étais plus sur le post-punk, et donc le punk et le hardcore américain, donc voilà, moi, j'étais plus Fugazi que...
J'ai ressorti hier, je me suis ressorti le 45 tours, là, des covers, avec les Hurleurs, Star, etc. J'avais oublié celui-là.
C'est un chouette disque. Hein. Moi, j'étais hyper content de notre prise de Fugazi à l'époque. Quoi.
Ok. Est-ce que dans la dernière petite question, dans les groupes actuels, il y a des choses qui te... qui te plaisent. Bon, je serais plutôt tenté à te demander côté français s'il y en a, voilà, pour limiter un petit peu le nombre.
Écoute, en France, moi, c'est pas très très nouveau. Hein. Moi, j'aime beaucoup Frustration, mais voilà, moi, c'est un moment que je les suis. C'est intéressant parce que le chanteur était proche du tromboniste des Hurleurs par des connexions de frères et sœurs. Et donc c'est drôle, puisque moi j'avais écouté des cassettes de Zurich Placenta à l'époque, donc c'était assez drôle de le découvrir dans Frustration. Qu'est-ce qu'en France, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai écouté qui m'a touché récemment
Toujours la question difficile.
Ouais, c'est pas que c'est difficile, c'est que là, j'aime bien... Comment s'appelle ce groupe? C'est horrible. je les suis, j'ai pas acheté leur disque, donc en plus j'ai même pas le truc visuel, mais j'entends plein de choses, je sais pas, j'ai... je bosse, bon après ils sont français, mais est-ce qu'ils sont considérés comme étant français? Déjà il y a beaucoup de gens avec qui je bosse, que moi je j'aime beaucoup, parce que c'est aussi avec qui je bosse comme ingénieur du son, mais 4Cap par exemple, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Farida, elle a un projet qui s'appelle Ida Sofar, ça je trouve son premier EP est super. Et là je suis en train d'essayer de trouver des trucs francophones en fait, c'est là où c'est encore autre chose. Parce que là c'est des anglophones, mais
bon, je vais pas t'embêter, c'est toujours compliqué à trouver.
Tu m'embêtes pas, mais c'est juste j'aurais dû te prévenir. Un peu de cours. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que j'aurais pu retrouver les noms et tout ça. Là, je suis un peu pris de court, mais oui, bon, il y a eux. J'ai été à un concert de David Fennec, jouait avec un groupe, et je ne me souviens même plus du nom du groupe, mais ça, c'était un concert qui m'avait vraiment plu. Un truc très minimal, un peu comme l'Amiens, qui était vraiment très bien.
Écoute, on aura ces noms de...
Il n'y a pas un groupe qui s'appelle Métro Verlaine?
Je ne connais pas. Peut-être,
Je crois que c'est leur nom, mais je suis en train de... Je suis un peu... Métro Verlaine, Métro Voltaire, je ne sais plus.
Mais on aura ta réponse dans le fanzine, voilà. Je te demanderai comme ça par mail et tu me le diras.
Je vais prendre le temps de trouver les bons noms. Exactement.
Ok, donc tu peux me dire où on peut se le trouver, le disque, voilà, est-ce qu'il y a un réseau particulier ou
Alors c'est un peu, le disque il est distribué, donc il est accessible dans tous les grands magasins, sauf qu'il n'est pas nécessairement présent dans tous les magasins. On peut le commander, mais il n'est pas nécessairement dans les bacs.
D'accord.
Moi je suis en train de démarcher, personnellement je suis en train de démarcher les disquaires, pour en mettre en dépôt, mais c'est un travail qui est long, et surtout voilà, c'est encore quand on peut aller les voir, pourquoi pas, parce que quand on y va avec des disques et on les dépose quoi. Par exemple, j'ai même pas encore eu le temps d'aller à Paris quoi, j'ai pas fait les disques à parisiens encore, donc voilà. Et puis évidemment sur toutes les plateformes, mais physiquement on peut l'acheter en ligne sur et notre Bandcamp, et le Bandcamp de Unknown Pleasures Records, qui ont participé à la sortie, et qui ont le CD. Sur notre Bandcamp, on peut avoir le CD de vinyle. Et puis oui, il y a des magasins. Alors je sais qu'à Rennes, par exemple, Blind Spot et It's Only Rock'n'Roll, ils ont le vinyle. Il est à Lille, chez B-Side Records, je crois. Oui, B-Side Records, c'est ça. Il va être chez Total Heaven à Bordeaux.
C'est le plus proche de chez nous.
Ouais. Et ça, c'est les gens pour chez qui... Il est à Auray, chez Bazoum Bazooka BD. Bazoum BD Musique. Voilà, ça, c'est les gens que j'ai réussi à toucher pour le moment.
Ok.
Voilà.
Mais écoute, on va se quitter donc sur la peur au ventre. Voilà, il me reste à te remercier, voilà, pour tous ces mots.
Merci à toi pour cette interview.
Il n'y a pas de souci. Donc l'interview qui se retrouvera dans le fanzine à la rentrée, voilà, parce que il y a été entre temps, donc on travaillera pour la rentrée. Merci à toi, Jean-Charles.
Avec plaisir. Merci
et bonne journée.
Ouais, pareil.
À bientôt.
Salut.
souvenir de ton bassin, toute la peau qu'a touché les mains. Et dans
magazine à l'eau de rose, femme trompée, mari coquée, Brad Pitt, Kate machin chose. Allongé, tu les dévores tout cru, et quand il pleut, des échymoses. Là, tu te sens bien repu, ça t'évite de penser à autre chose. À mes caresses sur ton dos, à mes caresses sur ton dos nu. Tellement temps qu'on ait vécu ces histoires où le mari dépose des pluies de roses sur sa femme connue. Mais chez nous c'est pas la même chose. Pas la peine de passer en revue tous les regrets, les matins moroses. Je te jure, un jour je me bougerai le cul. Mais pour l'instant tout ce que je te propose, c'est mes caresses sur ton dos. Mes caresses sur ton dos nu. Si jamais tu oses me dire que tu n'en veux plus, que tu as ta dose de mes caresses sur ton dos nu rose. Si jamais tu oses me dire que tu n'en veux plus, j'en ferai un fénivert rose, le plus beau qu'on ait jamais vu, tailladé sur ton dos. Tailladé sur ton dos nu.
Frandol à l'instant avec Rose, un morceau, je me rappelle un disque que j'avais emprunté au Café Musique dans les bacs, voilà, à l'époque où je chroniquais des choses qui y passaient. Voilà, maintenant il y a beaucoup moins de CD qui y arrivent, je crois, beaucoup plus de liens, et de toute façon je n'ai plus accès forcément à ça et je reçois déjà suffisamment de choses. Encore un grand merci à Jean-Charles du groupe Versari. Donc on s'est écouté trois morceaux, Des images, Brûle la peur au ventre, de ce superbe album Sous la peau, voilà, que je vous invite à découvrir. L'interview sera dans le fanzine Kavzik à la rentrée prochaine, voilà, octobre je pense, octobre ou novembre, on verra ce qu'il est possible de faire. On va se quitter sur Tahiti 80, c'est beaucoup plus léger, voilà, plus pop, beaucoup plus pop. Un très chouette morceau pour un très chouette groupe d'ailleurs, mais qui n'existe plus. Allez, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour François 1er en interview et la semaine suivante pour Intenable. Salut à tous.
You came to me saying, are you ready to close your eyes, take off your disguise?